D'abord, peut-être faire une mise en garde au départ pour ceux et celles qui m'ont déjà entendu dans ce genre de forum sur la question des enjeux pour le mouvement syndical dans le contexte de la mondialisation et le monde du travail. Je dois vous avouer que ces dernières années, je n'ai pas tellement renouvelé ma propre réflexion là-dessus dans la mesure où j'ai occupé d'autres fonctions à l'intérieur de la CSN qui ont fait en sorte que, bon, ça, la vie m'a amené ailleurs. En même temps, je dois vous dire que c'est clair que la CSN est encore aujourd'hui partie prenante de tous les débats et les réflexions qui se mènent à l'échelle internationale, que ce soit sur le terrain de la coopération ou des différentes réflexions qui sont venues dans les forums, tant au Québec, au Canada qu'ailleurs, sur comment travailler une meilleure régulation à l'échelle globale. Notamment dans les rapports liés au travail, parce que c'est sûr que quand on aborde la question des clauses sociales, des accords cadres internationaux ou de la responsabilité sociale des entreprises, on pourrait déborder facilement le cadre du travail, mais en même temps, je vais quand même porter mes quelques éléments de réflexion autour de la question du travail. Cela dit, comme les choses n'évoluent pas à la vitesse grand V à l'échelle globale et que souvent, on est pris dans nos propres réalités locales et nationales à gérer le quotidien des réalités du monde du travail, bien, c'est clair que le décalage observé par rapport au phénomène de la mondialisation, de l'intégration des marchés et de ses conséquences sur le monde du travail, le travail et bien sûr les travailleuses et les travailleurs se fait toujours sentir peut-être à géométrie variable. Bien, j'aimerais peut-être insister d'abord sur un élément qui m'apparaît fondamental. Le mouvement syndical international, depuis une dizaine d'années, a muté vers autre chose. C'est-à-dire que le mouvement syndical, héritier d'une période qu'on dit souvent révolue, c'est-à-dire de l'après-guerre, révolution industrielle, développement du monde occidental qui repose sur les rapports nord-sud traditionnels. Quand je suis arrivé aux opérations des affaires internationales au début des années 2000, il était encore calqué sur ce modèle-là. Un vieux modèle, même guerre froide, là, avec des organisations syndicales qui étaient davantage d'allégeance pays de l'Est, un mouvement syndical qui était davantage influencé par le mouvement syndical américain. Et bon. Il y a des gens qui, notamment Guy Ryder, qui aujourd'hui occupe la direction générale de l'OIT, soit dit en passant, c'est une première que quelqu'un issu du monde ouvrier du mouvement syndical occupe cette fonction importante dans la plus vieille institution internationale, 1919, je pense, l'OIT. Quand Guy Ryder et les organisations syndicales qui ont porté le projet de transformation du mouvement syndical à l'échelle internationale l'ont mis de l'avant, c'était clair que c'était pour répondre aux nouvelles réalités liées à la mondialisation et ses conséquences sur le monde du travail. C'est un mouvement syndical, c'est sûr, dans les années 70, 80, 90, même, qui appelait à l'élaboration de clauses sociales, qui appelait à une meilleure régulation à l'échelle internationale des rapports du travail. Mais c'est un mouvement syndical aussi qui souhaitait, quelque part, se regrouper sur de nouvelles bases pour être capable de constituer une nouvelle force syndicale à l'échelle internationale. Même dans les textes de la CISL de l'époque, on reconnaissait qu'il y avait un décalage entre le phénomène d'intégration puis de mondialisation et la façon et à la vitesse que le mouvement syndical avait évolué, ou même de façon plus générale, je dirais, les institutions nationales, incluant le mouvement syndical. Il y avait un décalage à peu près d'une trentaine d'années entre là où on était rendu dans le processus d'intégration à l'échelle globale et ses conséquences, bien sûr, sur les travailleuses et les travailleurs, et où était, à cette époque-là, le mouvement syndical. Donc, c'est sûr que ça a été un coup de barre quand même considérable qui a dépoussiéré le mouvement syndical à l'échelle internationale et qui nous a renvoyé assez rapidement à l'importance pour les organisations affiliées. Parce que les organisations affiliées nationales, de mémoire, je pense qu'on est autour de 350-400 organisations syndicales affiliées à la CSI. Ça nous renvoyait, nous, les organisations nationales, à nos propres responsabilités par rapport à l'interface d'un agenda international. Par exemple, quand on pose la question du commerce international, puis qu'on est en alliance avec des organisations syndicales au Canada, aux États-Unis, au Mexique, bien, ça pose pas juste la nécessité puis l'importance d'avoir une interface forte entre les organisations syndicales au Canada, mais ça nous oblige à développer puis à tisser des liens avec les organisations syndicales aux États-Unis puis ailleurs pour être capable de développer pas juste un discours, mais aussi une pratique puis des stratégies qui vont influencer le cours de la mondialisation. Au Québec, rapidement, on le sait, au départ, on a été anti-mondialisation. On est passé par une période d'alternative. À l'époque, on était militant de Québec 2001, le réseau québécois sur l'intégration continentale, où on se disait, bon, on se met en opposition carrée au modèle de mondialisation actuel. Pas sûr que ça donne nécessairement les résultats escomptés. Donc, essayons de tenir un discours puis une pratique plus proactive pour essayer d'influencer le processus d'intégration. En même temps, il faut reconnaître que même si le mouvement syndical a été capable de muter puis de migrer vers une autre approche sur la question de l'intégration, c'était pas sans effet sur nos propres organisations. Par exemple, dans le secteur privé, à la CSN, dans les années 80, alors qu'on était confronté à des fermetures d'usines, des fermetures d'entreprises, à cause justement du phénomène de la délocalisation, ben le discours syndical n'a pas juste changé, la pratique syndicale a aussi changé. C'est-à-dire que les syndicats se sont mis à parler, à l'époque on parlait de prendre les devants dans l'organisation du travail, pour être capable justement de s'assurer qu'on conservait le maximum d'emplois au Québec, puis qu'on gardait les usines ouvertes. Bon, il y a eu un bilan de fait après, on a réussi dans certains cas, dans d'autres cas, on a été emporté par le phénomène des délocalisations. Mais tout ça pour dire que l'approche face au phénomène du commerce international va changer au fur et à mesure que, à l'intérieur de nos propres organisations, le discours et la stratégie syndicale changent. Alors ça, je pense que c'est un élément qui est important à saisir, parce que sinon, si le mouvement syndical n'est pas capable de sortir de ses cadres nationaux traditionnels de relations de travail et que le mouvement syndical n'est pas capable de réfléchir puis de penser l'action syndicale internationale avec des modes de régulation à l'échelle internationale différents, bien, le phénomène du décalage entre la réalité nationale puis la réalité international ou de mondialisation va nécessairement s'accentuer. Deuxième élément qui m'apparaît assez important, c'est que le phénomène de la mondialisation nous a obligés comme organisation syndicale à réfléchir davantage la façon dont on allait justement influencer les processus d'intégration. Et là, vous donniez l'exemple, par exemple, des fameuses clauses sociales qui n'ont pas de dents. On pourrait parler des normes internationales qui n'en ont pas plus. Est-ce que ça tient juste à la volonté de mettre des dents ou non aux accords? Je ne suis pas sûr que les entreprises, que les multinationales ou les patrons seraient d'accord à ce qu'on ait des mesures plus contraignantes pour adopter les normes internationales du travail, par exemple en Colombie ou ailleurs. Bon, en même temps, il y a des gens qui vont dire si on le fait, l'approche volontaire risque d'être compromise dans la mesure où les entreprises, puis le dialogue social, puis le tripartite autour d'eux risque d'être compromis. Bon, il y a tout un débat là, mais pour le mouvement syndical, c'était très clair qu'à partir du moment où on met de l'avant un peu plus de propositions engageantes pour permettre justement le renforcement des droits, pas juste dans les pays occidentaux et en Amérique du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, ça nous obligeait quelque part à réfléchir à notre propre façon de se comporter, par exemple, face au gouvernement canadien, et ça nous obligeait aussi à réfléchir à notre propre façon de travailler la solidarité et la coopération dans les pays du Sud. Deux dimensions, à mon avis, sur lesquelles il faut réfléchir quand on pose la question des accords commerciaux. On en parlait un peu en aparté avant le début de l'atelier. Moi, je me rappelle très bien d'une rencontre à Ottawa avec un gouvernement conservateur à l'époque qui était minoritaire, qui nous posait carrément la question de l'utilisation des clauses sociales dans les accords de libre-échange. Et moi, je me rappelle d'un ministre du Travail à l'époque qui interpellait tant le patronat que le mouvement syndical pour dire il n'y a peut-être pas des dizaines de millions, mais il y a quand même pas mal d'argent dans un secrétariat à Washington sur les questions du travail qui n'est pas utilisé. Et d'un débat qu'on faisait, nous, avec nos camarades du CTC canadien ou de la FTQ, en disant, mais on comprend bien qu'on est souvent sur des positionnements idéologiques par rapport au commerce international. On va dénoncer l'accord de libre-échange Canada-Colombie parce qu'on considère que c'est un accord qui n'est pas fondé sur plus de justice sociale, que c'est porteur d'un projet néolibéral, etc., etc. Mais en même temps, quelque part, dans le jeu de base de la négociation, est-il possible d'ouvrir des discussions avec le gouvernement canadien pour dire, par exemple, vous prétendez que les accords de libre-échange Canada-Colombie, Canada-Panama, Canada-Pérou viennent renforcer les droits du travail? Est-ce qu'on serait capable, tout en étant critique, bien sûr, sur la nature des accords, d'ouvrir un dialogue avec le gouvernement canadien le gouvernement colombien, par exemple, et les organisations syndicales colombiennes pour travailler au renforcement des capacités des organisations dans les pays du Sud. Bon, évidemment, ça nous oblige à nous transporter sur un tout autre terrain, d'un positionnement idéologique à un positionnement qui serait qualifié davantage de pragmatique. L'autre question qui, pour nous, nous apparaît essentielle, et c'est sûr que dans le contexte actuel, c'est pas la chose sur laquelle on a le plus de succès, c'est le renforcement des capacités des organisations de la société civile dans les pays du Sud, particulièrement du mouvement syndical. Alors, vous pourrez avoir les clauses sociales que vous voulez, vous pouvez avoir les accords cadres internationaux que vous voulez, vous pouvez avoir les principes de responsabilité sociale que vous voulez. S'il n'y a pas d'organisation de la société civile indépendante, puis là, je vais parler pour ma propre cour, d'organisation syndicale capable, de façon indépendante, de jouer le jeu du rapport de force en Colombie, au Pérou ou ailleurs, pour faire appliquer puis faire respecter ces accords-là, mais vous avez un méchant problème. Et le drame actuellement, c'est que dans tous les rapports à la coopération, en commençant par le Canada, le premier, tous les fonds dédiés au renforcement des capacités des organisations dans les pays du Sud sont complètement laminés. On le sait, même le gouvernement conservateur actuel préfère financer des organisations religieuses. Puis bon, vous connaissez la... Donc, mais c'est un drame, pas juste au Canada, c'est un drame en Espagne. Le gouvernement espagnol, qui était un des grands bailleurs de fonds de la coopération, particulièrement syndicale, vers l'Amérique latine, qui, à cause de la crise économique, est en train de fermer les champlures. Donc, quelque part, ça pose la question du renforcement des capacités dans les pays du Sud, et ça nous renvoie à quelque chose d'extrêmement difficile, je vais finir là-dessus, pour les organisations au Nord, compte tenu que le mouvement syndical est appelé à gérer la décroissance, la crise de l'emploi et des conditions générales de travail, bien, ça pose toute la question du lien de solidarité avec les pays du Sud. En termes clairs, quand vous posez la question de la coopération Nord-Sud, les travailleuses et les travailleurs dans une assemblée générale, ils vont dire, bien, on va d'abord réfléchir au renforcement de nos propres capacités ici, avant même de poser le geste de la coopération. Et ça, pour nous, c'est un défi qui est immense parce que, il faut le dire comme ça, là, même si le mouvement syndical, à l'échelle internationale, demeure un interlocuteur encore non seulement crédible, reconnu et relativement bien représenté et équipé, s'il en demeure pas moins que depuis une quarantaine d'années, le taux de représentativité syndicale à l'échelle internationale est en déclin. Et donc, forcément, avec les conséquences que ça peut avoir sur les conditions générales de travail. Alors, voilà, je m'arrête là-dessus.
Merci.